Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
Dessus de table, l'émission qui mange le morceau. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Manuel Mariani, vous êtes avec nous. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va bien, critique gastronomique. Et notre invité aujourd'hui, Manu?
Alors notre invité du jour, c'est Benjamin Baudis.
Bonjour.
Bonjour Benjamin. Alors Benjamin Baudis, il est étudiant à Sciences Po et comme tous les étudiants, il se nourrit. Et comme beaucoup d'étudiants, il mange du kebab. Hein, c'est un petit peu une nourriture pas quotidienne, mais enfin récurrente chez les étudiants, le kebab.
Absolument. C'est à la fois assez peu cher, très consistant. C'est ouvert tout le temps et aussi c'est très bon. Il faut le dire.
Bah c'est très bon. Alors ça dépend lesquels, mais bon parce qu'on n'a pas toujours eu des expériences heureuses dans les kebabs et puis il y a eu aussi pas mal de chroniques un peu polémiques sur le contenu des kebabs et l'hygiène alimentaire des kebabs. Mais on va en parler parce qu'il faut pas non plus être catastrophiste. Il y a des endroits où on mange des très bons kebabs.
Ah, absolument.
Puis Philippe, on va définir aussi un petit peu quelle est la différence entre le kebab, le doner kebab et autres.
Hein. Alors si vous êtes là aujourd'hui, Benjamin Baudis, c'est que de cette passion, vous avez fait un livre.
Absolument, oui.
Qui s'appelle, Manu?
On va laisser Benjamin répondre.
Alors, donc, avec un petit jeu de mots, il s'appelle Kebab, question d'honneur, qui est paru il y a quelques mois, en novembre, et qui essaye à la fois de retracer l'histoire du kebab, toutes les polémiques qu'il y a autour, toute l'histoire des ingrédients aussi, et essayer de voir comment est-ce que ce sandwich est le fruit des échanges et comment est-ce qu'il s'est réadapté en permanence, et que c'est un beau symbole.
Bon, j'ai appris quelque chose qui m'a passionné dans votre livre, c'est que le mot kebab, c'est ce qu'on appelle une métonymie.
Alors oui, absolument, pour réviser le bac de français, c'est utile. Alors le kebab, ça veut à la fois dire le sandwich, mais aussi le restaurant. C'est comme un verre d'eau, est-ce qu'on va prendre un verre? Et donc voilà, le kebab, on peut aller au kebab ou on peut aller manger un kebab.
Voilà, oui, alors ça c'est dans l'adaptation moderne effectivement du terme. Parce qu'à la base, kebab, c'est un mot qui a été surtout utilisé en Perse, hein, par les Ottomans, qui veut dire en arabe grillade. C'est un mot emprunté à l'arabe qui veut dire grillade. Et c'est donc de la viande grillée et ça désigne, enfin de la viande pas forcément, on peut faire des kebabs de légumes, hein, Philippe. Et ça désigne différents plats à base de viande grillée dans de nombreux pays, donc dans le monde ottoman, au Maghreb et en Inde du Nord également. Alors selon les pays, hein, on les appelle kebab, kabab, kabob, kebab.
Et toutes les variations possibles.
Kebab. Et puis, il y a le fameux shawarma aussi. Hein,
alors, Liban, ça, je savais pas que le shawarma, c'était un kebab.
Bah, en fait,
c'est pas exactement pareil, mais bon, enfin, bref.
Le shawarma, c'est une grillade, Philippe. Donc, étymologiquement parlant, c'est un kebab. Alors, après. Effectivement, comme le dit notre invité, le kebab est devenu par métonymie et un restaurant à kebab, du coup.
C'est ça.
Et un plat. Alors, avec une précision, c'est que cette viande qui tourne sur une broche, c'est le doner kebab. Pourquoi? Parce que doner, ça veut dire rotatif, tournant. Donc, en fait, c'est une grillade qui tourne.
Donc, alors, si on veut définir le mot doner, c'est grillade qui tourne, c'est ça?
Doner kebab. Doner, ça veut dire rotatif.
Voilà. Doner, voilà, ça veut dire littéralement qui tourne. Et c'est d'ailleurs de là que vient le mot shawarma, qui est en fait une traduction du turc shawirme, qui signifie ça tourne, et qui a donné le mot arabe shawarma, qui est ensuite resté le mot arabe pour signifier donc l'équivalent du doner kebab dans ces pays.
Voilà. Alors après, le fait que ça se retrouve dans un sandwich, Philippe, c'est parce qu'on en parlait il y a pas longtemps dans une autre émission, sur la crêpe d'ailleurs notamment, c'est que simplement le pain, ou les galettes, ou les pitas, ou les durum en Turquie, enfin plutôt chez les Kurdes, c'est un moyen de saisir les aliments. Et du coup, alors c'est une assiette, et c'est pour ça qu'on y met et la salade, et la viande, et des sauces, on agrémente ça, et on mange ça un peu comme un sandwich. Mais le kebab n'est pas un sandwich. Le kebab, c'est la grillade qu'on mange effectivement avec du pain ou autre. Et puis quand effectivement il tourne et qu'on le découpe comme ça sur la rôtissoire tournante, bah c'est un doner kebab. Voilà, c'était important de replacer les choses avec notre invité au niveau.
Enfin, surtout avec vous, Manu, parce que l'invité vous le laissez pas beaucoup parler. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les premières sources écrites qu'on a sur le doner, parce que la Manu raconte l'histoire. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, les premières sources que vous trouvez? Alors, qu'ils définissent.
En fait, pour rajouter encore un mot abscon, il y a le sac kebabi qui est en fait l'équivalent du doner kebab. Il tourne aussi, mais sauf qu'il est à l'horizontale. Et dans les premières sources écrites, on a trouvé dans le livre d'Evlia Celebi des occurrences de sac kebabi vers la Crimée et en Arménie. Donc, il y a aussi une école qui penserait que le kebab est originaire de Crimée. Donc ça, c'est dans les premières, ça c'est autour du 15e, 16e siècle. Et après, ensuite, on retrouve de plus en plus l'occurrence du mot, et notamment chez les voyageurs occidentaux qui allaient faire des voyages en Turquie ou dans le monde arabe, qui allaient faire leur grand tour. Et par exemple, il y a Félix Bourquelot qui parle très bien de tout le port d'Istanbul, où il voit les stands de kebab, ainsi que beaucoup de voyageurs occidentaux qui vont à la Mecque et qui essayent de décrire les rues, et qui explique que la rue qui était occupée par des Turcs était occupée uniquement de kebab. Dès l'époque, c'était ça.
Mais dans les recherches que vous avez menées, vous dites que finalement c'est très très difficile, voire même impossible, de déterminer l'origine précise du kebab.
Alors oui, c'est déjà il y a le problème de la langue et des différentes orthographes, c'est-à-dire que pour essayer de retrouver le bon mot, c'est absolument impossible. Et ensuite que comme ça a été une sorte de continuum, c'est-à-dire que comme c'était une méthode de cuisson mais qui est millénaire, c'est assez difficile de dire à partir de quelle date précise est-ce que c'est devenu le kebab comme on le connaît.
Oui, c'est un peu Philippe comme si on essayait de déterminer l'origine de la soupe, voilà.
Hein, c'est ça.
Parce que kebab, c'est un terme vraiment générique, comme le disait Guillaume. Le kebab,
appelez-moi
c'est...
Appelez-moi Benjamin.
Benjamin, pardon. Je sais pas pourquoi je vous ai rebaptisé, oui. Benjamin.
Vous
m'avez laissé faire, en plus. C'est très gentil à vous.
Non, mais moi, je vigile.
Oui, merci beaucoup.
Vous avez raison de vigiler.
Non, mais papy, je m'inquiète de votre Alzheimer, c'est pour ça.
Ah, bah, écoutez, vous savez, mon Alzheimer, il est récurrent, les auditeurs ont l'habitude.
Hein, donc.
Et donc, effectivement, c'est comme si on essayait de trouver l'origine de la soupe, quoi. Donc, c'est effectivement très compliqué. Ce qu'on sait, c'est effectivement au niveau de l'étymologie que kebab, c'est un mot d'origine arabe, mais il y a effectivement après d'autres mots qui qualifient la grillade. Et effectivement, vous parliez de kebab rotatif. C'est vrai que ces kebabs rotatifs à l'horizontale existaient bien avant le doner kebab, qui là est une invention allemande. D'un émigré turc en Allemagne,
voilà.
Hein, qui a redressé la
en fait,
la,
pas
la exact, broche, non
pas exactement. Alors, c'est-à-dire que ça a été fait de manière beaucoup plus artisanale autour de 1850 en Turquie. Donc c'était dans les grandes villes, que ça soit Antalya, Istanbul ou Bursa. On voit souvent que avec les grandes villes qui commençaient à naître à l'époque et tout l'exode rural avec les populations qui arrivaient, on avait besoin de gagner de la place. Et donc souvent, on a essayé de faire de la street food déjà à l'époque. Et un des moyens les plus simples, c'était de faire d'empiler des briques avec des braises à l'intérieur et de mettre une broche qui tournait autour.
Ouais, mais sauf qu'à l'époque, et c'est ça qui est génial, c'est que c'était éolien.
Voilà.
C'est-à-dire qu'ils tournaient avec le vent.
Ils étaient écolos avant.
Donc pas de vent, pas de kebab.
Voilà. Donc soit on pouvait le faire à la main, soit vraiment la méthode éolienne, c'était le nec plus ultra de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait des petites pales qui tournaient avec le vent. Et même, ils ont réussi à trouver une méthode pour les jours où il n'y avait pas de vent. Ils mettaient de l'eau à bouillir en face qui faisait un petit filet d'air qui faisait tourner la broche.
Ah oui, ça
va peur. Voilà. Il y a des illustrations dans votre livre, hein, parce que c'est vraiment l'histoire. Mais c'est super intéressant de voir. Nous, on voit le kebab aujourd'hui, mais il y a toute une histoire.
C'est ça, il y a tous les
grands-parents
du kebab. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir de la méthode de cuisson à la base, chaque pays a réussi à se réapproprier la recette. On parlait du shawarma un peu plus tôt. Le shawarma, ce qui est intéressant, c'est que c'est une recette qui est quand même un peu différente, parce qu'au lieu d'utiliser du yaourt pour faire la marinade, souvent on utilise à la fois du vinaigre ou du vin rouge, parce que le shawarma, c'était souvent un plat maronite, et donc ils avaient pas les interdits par rapport au vin.
Par rapport à l'alcool, oui.
Voilà.
Alors, vous parliez de la ville de Bursa. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une recette turque qui s'appelle le Bursa kebab, hein, qui sont effectivement des lamelles de viande marinées avec une sauce tomate, avec une espèce de je dirais pas de la crème fraîche, mais enfin une espèce de crème, quoi, des tomates, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des kebabs qui sont associés à des noms de villes.
Mais voilà, il y a l'Adana kebab, le Bursa kebab. Après, c'est vrai que
Iskander kebab.
Iskander,
aussi,
mais qui vient de Bursa, lui.
Ah, d'accord.
Qui vient en fait d'un petit restaurant qui s'appelait l'Iskander à Bursa, et dont le fondateur a inventé une recette avec donc des tranches de viande avec un peu de yaourt, de la sauce tomate, et sur les tranches de viande, on rajoutait du beurre fondu.
Ah, d'accord. Oui, c'est riche.
C'est riche, mais c'est très bon. Je vous le conseille.
Alors, sans l'Allemagne, le kebab qu'on connaît aujourd'hui n'aurait certainement pas cette forme-là, ni le succès qu'il a.
Alors voilà, en Allemagne, c'est là qu'a eu lieu la deuxième révolution après le passage à la verticale. C'est le moment où on a réussi à un peu occidentaliser le sandwich et finalement à le mettre dans un emballage pour que ça devienne du fast-food.
Et lui coller des frites de temps en temps aussi, tant qu'à faire.
De temps en temps. Ouais. Même si en Allemagne, ils sont pas très très frites. C'est plutôt en France où c'est arrivé.
Il y a des légumes, hein. Il y a plus de la salade.
Voilà. Ouais. En fait, à la base, c'est autour de 1970. On sait pas très bien encore qui l'a fait parce qu'il y a deux écoles. Donc entre 71 et 73, des immigrés turcs en Allemagne ont décidé de mettre le sandwich à l'intérieur d'un support portatif. Puisque comme tous les ouvriers turcs qui étaient autour avaient besoin de manger vite pour pas cher et que ça soit consistant, ils se sont dit, autant faire les plats qu'on sait faire, mais dans des pains qui soient plus pratiques et qu'on puisse prendre avec soi.
Oui, alors, le nom qu'on voit revenir le plus souvent comme étant l'inventeur du donneur kebab, c'est Mehmet Aygun en 71, mais c'est vrai qu'il y a une autre école aussi.
Une autre école.
Kadir Norman.
Originaire d'Allemagne également aussi.
Exactement.
Ouais.
Et donc en fait, Mehmet Aygun dit qu'il l'a inventé en 71 et Kadir Norman dit qu'il l'a inventé en 72 ou 73. Et normalement, le syndicat des kebabistes d'Allemagne dit...
Ah, il y a un syndicat.
Il y a un syndicat, ils se sont syndiqués et ils disent que c'est plutôt Kadir Norman qui est le vrai inventeur. Mais bon, il y a un grand débat et comme on n'a pas les sources pour trancher...
Il n'y a pas d'antériorité à l'INPI là-dessus.
Voilà, c'est ça.
Alors d'ailleurs, vous parlez du syndicat des kebabistes d'Allemagne, mais j'ai lu quelque part qu'en Allemagne, il y avait plus de kebabs que de McDonald's et Burger King.
Alors oui, c'est impressionnant le nombre de kebabs qu'il y a en Allemagne. Encore une fois, c'est assez difficile à estimer, mais on dirait qu'il y a entre 20 000 et 30 000 kebabs en Allemagne. Et aussi, pour la comparaison avec le McDonald's, je veux dire, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que McDonald's est arrivé en Allemagne à peu près au même moment où le donneur a été inventé. C'est-à-dire que je crois que le premier McDonald's a été ouvert en Allemagne en 71. Donc en fait, c'était la lutte dès le début entre les deux fast-foods qui émergeaient et qui ont un peu évincé la currywurst. Et au moment de la chute du mur de Berlin, ce qui est assez intéressant, c'est que comme l'Est a essayé de reprendre tout ce qui était culture occidentale, ils ont repris à la fois le McDonald's, mais aussi le kebab, en l'assimilant à la culture occidentale. C'est pour ça qu'on a vu des mélanges assez drôles, du style McDonner, qui étaient des chaînes qui se revendiquaient très américaines de kebab.
Oui, il y en a quelques-uns à Paris d'ailleurs, des McDonner, qui sont tenus par des gens d'origine turque et qui ont des logotypes et des codes couleurs très McDonald's et qui font du kebab.
Ouais. C'est assez marrant.
Mais pourquoi, alors qu'ils sont inventés en même temps et où on voit apparaître les chaînes de restauration rapide, il n'y a pas une chaîne de kebab qui se soit imposée mondialement au même titre que McDo?
Alors, sur la partie de l'établissement...
Est-ce que ça veut dire que ça reste des histoires familiales finalement et des petites compagnies?
Alors oui, absolument. En fait, c'est ce qui est assez impressionnant quand on essaye de rentrer dans le monde du kebab, c'est de voir tous les liens que certains entretiennent entre eux et que finalement, même si les noms sont totalement différents, c'est la même famille qui les tient, ou alors c'est des cousins. Et souvent, ce qui est assez drôle à voir, j'étais tombé dans un kebab à Dreux qui m'expliquait que le cuisinier en fait était un de leurs cousins dont le kebab avait brûlé en Allemagne et qui restait avec eux pendant 6 mois pour faire la viande le temps que son kebab soit reconstruit. Donc en fait, il y a tout un mouvement et une sorte de chaîne, mais qu'on ne voit pas des kebabs. Et en France aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une chaîne est née, donc le Nabab Kebab, qui est assez réputé, qui est né à Tours.
On voit ça tous les midis, nous, hein, dans la maison.
Absolument, ouais. On nous ramène du Nabab Kebab tous les midis dans le bureau.
C'est combien d'enseignes en France, Nabab, aujourd'hui?
Alors, je saurais pas vous dire, mais ça a été créé en 2003. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils ont réussi à s'internationaliser très vite. Donc, il y a des Nabab à Miami, à Dubaï.
C'est né à Tours, en
c'est
plus.
Né à Tours, c'est né à Tours. C'est né dans la place de Tours, dont on voit d'ailleurs encore l'ancien kebab. Et c'est devenu une marque mondiale maintenant.
Ah oui, on en voit partout, c'est vrai.
Bien, Benjamin Bodiz, vous êtes notre invité dans un instant. Nous rejoindra Karim Haïdar et on parle du kebab jusqu'à 13h ce bord.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bon Manu, aujourd'hui on parle du kebab à l'occasion de la sortie d'un livre sur le kebab. Hein. Question d'honneur, c'est Benjamin Bodiz qui le publie et qui est notre invité. Bonjour Benjamin.
Bonjour, merci de me recueillir.
Voilà, alors on trouve où votre livre?
Mon livre ?
Dans tous les bons kebabs.
Dans kebab.
Ouais. Alors, dans toutes les bonnes librairies déjà, mais bon, j'espère que tous les bons kebabs donneront envie de le lire.
Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé, mais c'est une bonne idée, Philippe, de distribuer alors, dans les kebabs.
Ça serait alternatif, mais assez drôle.
Pour 10 kebabs achetés, le livre offert. Le livre offert.
Ah, c'est bien ça. Pour
faire une carte de fidélité avec.
Bon, l'encyclopédie de l'émission est avec nous. Karim Haïdar, bonjour.
Bonjour.
Alors, président de l'Académie de cuisine du monde arabe, Karim.
Oui.
Voilà, et puis aussi restaurateur depuis quelques temps. Vous avez, restaurateur, vous l'avez déjà été, mais vous venez d'ouvrir de nouveau un restaurant qui s'appelle Askini. On en parlera en dernière partie d'émission et je donnerai l'adresse. Alors, Karim, vous êtes également, donc, comme le disait Philippe, le président de l'Académie culinaire du monde, de l'Académie de cuisine du monde arabe.
Exactement.
Et c'est vrai que vous êtes un peu calé sur le kebab, hein. Parce qu'on a survolé, on attendait de vous avoir au téléphone, Karim. On a survolé un petit peu l'origine du kebab, parce que bon, donc, Benjamin nous parle du doner kebab, donc, ouais. qui est l'évolution du kebab. Mais le kebab, ce qu'on disait en première partie d'émission, c'est qu'à la base, c'est simplement une grillade, Karim.
Tout à fait. En tout cas, chez nous, donc au Moyen-Orient, on est plus sur une grillade, toute simple, essentiellement en brochette, mais pas nécessairement. Et ce que moi j'ai vécu mon enfance en connaissant le nom kebab, mais uniquement pour dire voilà des grillades en général, et absolument pas cette broche verticale qui est devenue le kebab. Que nous avons d'ailleurs, même si elle est faite différemment au Moyen-Orient, que nous avons et que nous appelons shawarma.
D'accord, alors justement, oui, il y avait débat parce que je disais peut-être à tort que le shawarma, quelque part, était un kebab puisque grillade. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez ?
On peut le dire aussi, finalement, mais je pense que c'est la divergence qui s'est faite, c'est le changement qui s'est fait. À l'origine, ce shawarma n'était absolument pas considéré comme un kebab. J'ai cette impression qu'entre le doner kebab en Allemagne et aujourd'hui on retrouve partout le kebab en France, mais si vous dites à quelqu'un du Moyen-Orient du kebab, il ne pensera absolument pas à ce type de brochette.
Oui, en règle générale, c'est plus souvent le chiche kebab qui arrive en tête quand on pense au mot kebab simple, et chiche signifiant brochette. Donc c'est souvent le chiche taouk par exemple au Liban ou les souvlaki en équivalent en Grèce par exemple.
Exactement. Et on est sur une brochette horizontale pour le coup et non pas verticale.
Alors Benjamin, vous parlez de la Grèce, il y a le gyros aussi en Grèce. Alors est-ce que c'est Karim, vous connaissez peut-être sans doute aussi le gyros, est-ce que c'est quelque chose de nouveau, est-ce que c'est quelque chose d'ancien qui existe depuis longtemps en Grèce ?
Alors ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire, je vais dire n'importe quoi, donc je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, je ne sais pas si c'est... Bon, je pense qu'on a tous été influencés, je veux dire que ce soit... la partie turque, la partie grecque, la partie moyen-orientale, il y a une grande influence sur cette approche qu'aujourd'hui on appelle le kebab, qui serait le gyros en Grèce, qui est le shawarma chez nous. Mais le mot, moi je trouve très intéressant le changement, la transformation du nom kebab, c'est-à-dire que l'utilisation du mot kebab pour cette brochette verticale, pour moi c'est une création française. Le kebab tout seul, pas le doner kebab, mais kebab tout seul, c'est une création française. C'est quelque chose qui n'existe que là, qui n'a finalement pas grand rapport, sauf que c'est une technique qui est importée de Turquie, du Moyen-Orient, de Grèce, mais qui n'a pas de rapport avec le monde arabe en réalité.
Mais sur le nom, sur le surnom de grec, parce qu'on dit on va au kebab, mais on va au grec aussi.
Oui, mais ça, je pense que c'est arrivé. Alors moi, je suis parisien, donc pour moi, c'est arrivé par le fait que dans les rues des restaurants grecs, c'est là qu'on en a vu le plus au début. Mais je ne vois pas sinon d'où ça vient exactement.
Alors, pour moi, ce que j'avais trouvé, c'est que c'était à peu près ça dans le quartier latin, c'est qui était donc rempli de latins. Il y avait notamment des Grecs qui commercialisaient les souvlaki, qui enlevaient la brochette dans un bout de pain, et donc ça faisait un peu un sandwich qui ressemblait...
Ouais, dans les rues Saint-Séverin, par là,
voilà.
Galande...
Où il y a d'ailleurs aujourd'hui la rue de la Harpe, qui est uniquement
des
gyros les uns après les autres, et donc finalement, à partir de là, on a commencé à appeler ça un grec, Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que c'est parti de, donc, du cœur de Paris, et ça s'est peu à peu étendu au reste de la France. Et donc, finalement, j'ai l'impression que la ligne de frontière entre ceux qui appellent ça un grec et ceux qui continuent à appeler ça un kebab, par exemple, au nord, c'est vers la Normandie. À Dreux, ils continuent à l'appeler le grec, mais un peu plus loin, ils se mettent à l'appeler le kebab. Donc c'est assez marrant, il y a une
géographie, une vraie géographie de l'étymologie du doner kebab.
Et par exemple, en Alsace, ils ont plutôt le nom allemand qui serait le doner.
D'accord, oui, là, on l'appelle vraiment par le nom rotatif, quoi.
Exactement.
Oui, Karim, vous vouliez dire quelque chose ?
Non, je disais oui, tout à fait. Il y a ces appellations différentes, mais ce qui est toujours très intéressant, c'est comment le nom d'un produit particulier se conserve, se perpétue, se transmet à d'autres pays, mais pour un autre produit. Donc on garde le même mot, mais on met un autre produit.
Alors maintenant, parlons de la viande du kebab. De quelle viande parle-t-on on va dire dans la recette originelle.
Alors, on parle de quel kebab, en fait.
Ah oui, c'est ça.
Ce que vous appelez kebab aujourd'hui. Donc, si on est en train de parler du shawarma, la viande, c'est du poulet ou c'est de l'agneau. Il n'y a que ces deux-là au Moyen-Orient, mais avec une particularité par rapport à tout ce que vous voyez ailleurs, c'est que le poulet est mis entier, donc désossé entier, et l'agneau, ce sont généralement des grands morceaux d'agneau, essentiellement d'épaules d'agneau, qui sont pareils, désossés et mis entières. Après, on est passé à tout à fait autre chose avec le doner kebab, et on est passé à tout autre chose aussi dans le kebab en général en France.
Et aujourd'hui, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que l'agneau qui, à la cuisson, noircit énormément, a un goût très fort et sent assez fort aussi, a pas réussi à vraiment s'adapter au goût occidental, donc finalement a été un peu évincé. Et aujourd'hui, la plupart des industriels ne fournissent plus que des broches qui sont composées de volailles et de veaux. Donc selon la qualité, c'est oui, les proportions changent.
C'est de la dinde d'ailleurs.
Voilà, c'est soit dinde, soit poulet, mais en règle générale, on est sur les broches industrielles du 20% de veau et 80% de volaille. Donc avec.
Ce qui est assez dommage, parce qu'en réalité, ça ne sent pas si fort et ça ne devient pas si noir si on le fait bien.
Ah oui, oui. Ou si on prend un agneau trop âgé. Hein. Si c'est un agneau qui a du poil aux pattes, c'est plutôt un mouton. Et là, effectivement, ça sent fort. Oui.
Et donc, la problématique, c'est que, comme toujours, on part de quelque chose. Parce qu'on ne le fait pas bien, on passe à autre chose. Et puis, bien sûr, il y a un côté prix.
Oui, forcément.
C'est clair que le faire avec de l'agneau, ça coûte.
L'agneau de lait, c'est plus cher que la poule.
Ouais, l'alaiton de l'Aveyron.
Voilà.
Mais vous avez eu, il y a eu le kebab français haut de gamme qui a été fait.
Mais oui, le grillé qui fait avec
le grillé, tout à fait, avec
qui fait du veau, qui est d'ailleurs excellent.
Oui, alors c'est où ça? Il y a même des kebabs.
Le grillé, il est dans le deuxième arrondissement et. C'est vrai que ça change du kebab qu'on a l'habitude de manger. Il faut pas s'attendre à le repas à 5,50 et à être totalement calé. Mais c'est vrai que au niveau du gustatif, c'est assez impressionnant.
Adresse. Voilà. C'est une bonne adresse.
Il y a dans le même style, il y a le Our Kebab aussi, le Our Kebab qui est rue de Paradis, qui fait des kebabs. Alors, ce sont des kebabs assez bobos, hein, faut le dire.
Voilà, Benjamin. Ils sont très bobos. Si vous voulez du gras et être totalement calé avec moins d'un billet de 5, c'est pas là où aller.
Ouais,
c'est certain.
Ouais, c'est ça. C'est plutôt un bon billet de 10.
Voilà. Hein. Si vous voulez aller faire goûter le kebab à vos parents, c'est là où je vous conseille d'aller. Mais sinon. Honnêtement, rester à la méthode traditionnelle.
Ouais. Alors, il y a même à South Pigalle un kebab qui, alors provocation ou innovation, qui proposait des kebabs à base de porc. Donc ça c'est un peu particulier.
Bon, ceci dit, à South Pigalle, il y a beaucoup de.
Non, mais c'est vrai que ça montre aussi que tout le monde. Ça montre aussi que tout le monde s'est approprié un peu
le
kebab. Voilà. Alors justement, Karim, chez vous au restaurant Askini, le kebab, on le trouve sous quelle forme? Je l'ai déjà vu sous forme de brochette chez vous, hein, c'est ça?
Ben, en fait, nous, on est sous forme de brochette. Nous n'avons pas de brochette verticale, nous ne faisons pas de shawarma, et quand nous voulons en faire, nous en faisons, simplement poêlé, c'est-à-dire la manière dont on le fait à la maison, en réalité.
D'accord, vous marinez de la même manière, mais vous cuisez différemment.
On marine de la même manière, on coupe très fin avant la cuisson, et en fait, on fait revenir, bon, il y a plein de techniques là-dessus, pour donner justement le même moelleux, le même croustillant que ce qu'on recherche, en fait, dans le shawarma.
Et donc là, légalement, on peut continuer à cuire ça un kebab, puisque c'est une grillade. Oui, je dis légalement, oui, au terme, au sens étymologique.
Théoriquement, on devrait pouvoir appeler, en fait, kebab des choses qu'on n'appelle pas kebab aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les brochettes, les grillades et toutes les grillades en général.
Vous parlez de marinade. La viande de kebab, elle est marinée dans quoi ? Est-ce qu'il y a des épices, on va dire, qui sont adaptées à la recette ?
Ah oui, tout à fait. Après, ça dépend entre suivant qu'on soit sur le poulet ou sur l'agneau. Sur le poulet, on est sur de la noix de muscade, sur de la cardamome. On est aussi beaucoup sur de la cardamome dans l'agneau. Mais bien sûr, les classiques de chez nous, c'est-à-dire le poivre blanc, le poivre gris, une pointe de cannelle parfois, un peu de cumin. Y a un ensemble de choses qui viennent se rajouter. Mais ce qui est important... ça va être les huiles, les mélanges d'huiles, à la fois olive et huile neutre, pour éviter que ça brûle justement trop, mais qu'on ait le goût de l'olive. Et il y a aussi souvent le yaourt qui est utilisé.
Oui, c'est la question que j'avais vous poser. Ou parfois des laits fermentés ou caillés, j'ai vu de temps en temps aussi pour la marinade. Qu'est-ce que ça apporte ?
C'est pour... Ça attendrit, en fait, ça sert à attendrir les chairs. D'ailleurs, je recommande énormément, en général, quand on veut cuire un agneau, essayez chez vous, le jour où vous voudrez cuire un gigot d'agneau, tiens, un gigot bientôt à Pâques, enduisez-le de yaourt, vous verrez comme c'est bon.
Ouais, yaourt et cumin sur un gigot d'agneau, ça marche bien. Ouais.
C'est un délice.
Voilà. Ouais.
Bon, ça y est, j'ai faim.
Alors, la recette tomate, oignon,
salade tomate-oignon,
ça vient d'où alors ? Est-ce que c'est un rajout de chez nous ou ça a toujours été comme ça ?
Nous avons toujours eu surtout le tomate-oignon, mais la manière de le faire vraiment bien, c'est quand les tomates et oignons cuisent en fait en dessous de la broche. Alors, et avec les jus qui rentrent dedans. Et après, on rajoute. Alors, salade, moins au Moyen-Orient. On est plus oignon, tomate, persil, menthe que salade. Et puis la sauce, c'est pas les 25 sauces qu'il y a aujourd'hui.
Oui, oui. Ça,
vous êtes en train de nous dire que la sauce samouraï, ça fait pas partie des fondamentaux.
À votre avis, Philippe.
C'est une tradition très classique du monde arabe, la sauce samouraï. Oui.
En fait, à la base, sur les témoignages qu'on a, les premiers kebabs turcs, doner kebab, se mangeaient uniquement avec du beurre fondu, enfin du smen, qui est le beurre un peu rance fondu, et avec des pousses d'oignons. Donc ensuite, c'est vrai qu'on est passé au moment où on est passé sur le kebab en tant que fast-food, sur une multiplication des légumes, et c'est vrai qu'ensuite, c'est un peu chaque pays fait à sa sauce.
C'est le bar à sauce, là, voilà. Maintenant. Hein.
Ouais. Alors, Karim, j'avais une question à vous poser, en espérant que vous ayez la réponse. J'ai vu dans des kebabs qui m'avaient l'air un peu authentiques, que l'oignon, déjà, c'était de l'oignon rouge. Hein, je pense que ça, c'est logique, c'est un peu géographique. Et qu'il y avait un espèce de blé qui était grillé, torréfié, puis concassé après dans les oignons. C'est quelque chose de classique, ça, ou c'était une petite adaptation ?
Je ne connais pas, mais ça a l'air d'être très intéressant.
Oui, parce que ça donne un peu croustillant à l'oignon.
Tout à fait. Ça peut être très intéressant. Je ne connais pas.
Bon, ça ne vient pas des pays du Levant, alors apparemment, si vous ne connaissez pas.
Je ne pense pas, mais peut-être que ça vient, mais que je ne connais pas. Hein.
Mais tout le monde est d'accord sur oignon rouge ?
Oui.
Ah, mais ça, c'est géographique. L'oignon blanc et l'oignon jaune, il y en a assez peu, Philippe, hein, au Moyen-Orient.
On a pas mal de blancs, mais on n'a pas de jaune, en fait. Le jaune est inconnu.
Les blancs, mais qu'on utilise plus sous forme d'oignon frais que
souvent, sur la cuisson, c'est le rouge, et derrière, sur les pousses à mettre dans le sandwich, c'est plutôt de l'oignon blanc.
Voilà, exactement.
Et vous, quelle est votre sauce préférée, donc, Karim, pour un bon kebab ?
Il y en a deux, en fait. Il y a la classique que nous faisons, qui est à base de tahiné et de jus de citron, qui s'appelle le tarator. La deuxième, c'est tout simplement une pâte de piment, ça s'appelle la chatta. C'est du piment rouge et de l'huile d'olive mixée. Donc après, ça dépend si on aime le citronné ou le pimenté relevé. Après, classiquement aussi, sur le poulet, souvent, il y a la crème d'ail qui est rajoutée sur le
shawarma. Oui, c'est ça. J'allais vous poser la question, cette sauce blanche qui ressemblait presque à un aioli, quoi.
Oui. C'est de l'ail monté à l'huile. Et quand c'est bien fait, c'est uniquement
de l'ail. En fait, c'est la même base qu'un aioli, de l'ail monté à l'huile.
Sauf qu'il n'y a pas d'œuf.
Il Il y a pas d'œuf, oui, mais c'est très bon ça. Voilà. Ça c'est très.
Je, voilà. je ne sais pas qui l'a fait encore comme ça. On rappelle l'adresse de Karim.
Oui,
Manu.
Alors Karim, donc c'est le restaurant Askini. Donc là, vous faites de la cuisine levantine un peu revisitée, parce que vous êtes un très bon cuisinier, et donc vous avez un petit peu, vous avez des plats typiques et puis des plats un petit peu adaptés à la sauce moderne, je dirais. C'est 195 rue Saint-Maur, pardon, à Paris 10e. Et je donne le numéro de téléphone parce qu'il faut. De préférence réservé, parce qu'il y a beaucoup de monde chez vous, Karim. 09 63 53 98 10, je répète, 09 63 53 98 10, 195 rue Saint-Maur, Askini.
Merci d'avoir été avec nous ce matin, Karim Haïdar.
Merci à vous, au revoir.
Avec beaucoup de plaisir. Dans un instant, Manu, vous nous donnerez une recette de kebab d'agneau maison, on en parlait. Et Benjamin Baudis continue de nous parler de Questions d'honneur, le livre qu'il vient de publier sur le kebab.
Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Voilà, on parle du kebab hein, aujourd'hui jusqu'à 13h. On peut en parler des heures, il y a des centaines de recettes. Tout le monde a ses adresses qui se refilent sous le manteau. Les meilleures frites, le meilleur kebab, le meilleur pain. Benjamin Baudis, c'est notre invité, Manu, aujourd'hui à l'occasion de la publication de Kebab. Question d'honneur. Et ce kebab, il y en a vraiment des centaines de recettes, mais c'est aujourd'hui le plat de fast-food numéro 1 en Allemagne. Les Allemands, ben voilà, ils préfèrent le kebab au hamburger.
Voilà. Mais ils ont raison. Je
pourtant, qui a été inventé chez eux, hein, oui, hamburger.
Le hamburger, oui, qui a été plutôt inventé chez eux et revisité aux États-Unis. Là, c'est l'inverse. C'est le kebab qui a été inventé en Turquie et revisité chez eux. Et même la currywurst, qui était censée être leur plat étendard, finalement. Et
oui, la saucisse.
C'est fait des saucisses avec curry et un peu de sauce par-dessus. C'est passé à la trappe à côté du kebab.
Ouais, d'ailleurs, paradoxalement, les kebabs en Allemagne, hein, que j'en ai testé pas mal à Berlin, c'est vrai que la plupart font leur broche eux-mêmes, font mariner leur viande eux-mêmes.
C'est ça.
Mais en revanche, tous les kebabs français se font livrer d'Allemagne des broches congelées dans lesquelles parfois il y a eu des analyses qui ont été faites, on a retrouvé du porc, hein, je parle pas des salmonelles et autres, hein, mais c'est vrai que on a l'impression qu'il y a une culture du bon kebab en Allemagne, mais par contre il y a des usines qui nous refourguent leurs broches surgelées, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de kebabs en France, bon, qui on va trouver qu'ils ont le même goût. Parce qu'ils achètent les sauces toutes prêtes, hein, chez le même fournisseur.
Des broches, parce que au niveau des coûts, c'est assez difficile de faire faire moins cher, en fait. Je crois que c'est une cinquantaine d'euros pour une broche de 30 kilos, ce qui est absolument rien. Ouais. Et donc finalement.
On se demande d'où vient la viande, quoi. Voilà. Ça fait un peu peur. Ouais.
Donc à côté, c'est vrai qu'il est.
De Pologne.
Le vrai kebab chic qui doit se lever à 6 heures le matin pour repréparer sa broche avant que les clients arrivent. Ça devient plus rare, mais j'ai l'impression que finalement, il y en a encore de très bons. Il faut juste avoir les bonnes adresses et pas se tromper.
Oui, on va en donner quelques-unes en fin d'émission. Si vous en avez, apparemment, oui, hein, parce que vous avez fait le tour de Paris, hein, et peut-être
de
pas que
France
de Paris,
de Navarre,
de France et de Navarre. Vous nous en donnerez aussi, on en a peut-être en commun, hein, sait-on jamais.
Aujourd'hui, tous les kebabs à Paris sont halal.
Alors, il y en a une grande partie qui est halal, et d'ailleurs, c'est une des raisons du succès initial, c'est que dans les années 90, quand
c'était le seul fast-food.
C'était ça, c'était même le seul restaurant qui se revendiquait halal et dont on avait la certification qui était sur la vitrine.
Ouais, quand on voulait aller au fast-food, c'était filet au fish ou kebab.
Quoi. Non, alors, il y a eu le KFC qui a changé les choses beaucoup. Hein.
C'est vrai, ouais, c'est vrai aussi.
Le KFC. Mais c'est vrai que un des grands succès, en tout cas en France, du kebab, c'est parce que c'était la viande était halal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à Paris, tous les kebabs sont halal?
Alors aujourd'hui, à partir du moment où finalement il y a eu un gros bouleversement sociologique sur les consommateurs du kebab, c'est vrai qu'avant c'était plutôt tout ce qui était population immigrée qui allait au kebab. Aujourd'hui, c'est devenu un plat.
Tout le monde va au kebab.
Tout le monde va au kebab. C'est-à-dire que j'ai souvent des amis qui me racontent que leur repas de famille du dimanche, maintenant, c'est un kebab. Donc ils vont tous au donneur qui est en bas de chez eux et ils se mangent ça à la place du poulet dominical.
Oui, alors on le mange sous forme d'assiette aussi, avec le pain à côté, voilà, avec aussi. Des salades, etc.
Aussi, et c'est vrai que quand en France, on a souvent des kebabs qui ont des locaux qui sont assez grands. Parce que je crois que le CDE dit qu'on est de loin le pays qui passe le plus de temps assis à table. Je crois qu'on est à 2h30 par jour, alors que l'Autriche, si je me rappelle bien, est à 1h15. Donc on défonce tout le monde sur les durées, donc forcément les restaurants s'adaptent et mettent des grandes salles, et donc on a plus la tentation de s'asseoir.
Mais il y a un aspect pratique aussi, parce que moi je sais pas manger un kebab en sandwich sans m'en mettre partout, la sauce
c'est
déborde.
Plus compliqué. Il faut avoir la technique, mais c'est vrai que quand on regarde en Allemagne ou en Autriche par exemple, tout le monde le mange adossé au camion où ils l'ont acheté.
D'accord.
Mais d'ailleurs, vous expliquez que ce qui a permis de justement que ce soit un plat à emporter, c'est l'invention de la boîte à kebab.
Oui, d'ailleurs la boîte qui est devenue absolument iconique.
C'est la même partout, mais
quand on voit ça, qui est d'ailleurs est né aux États-Unis par un alignement des planètes assez étrange, où il y avait plus de caoutchouc, donc ils ont décidé de créer ça. Et donc en fait, dans cette boîte, il y a 98% d'air. Et c'est ce qui fait qu'elle est si légère. Et derrière, ça a été utilisé, mais
c'est la boîte
très largement.
Qu'on retrouve aujourd'hui partout.
Et qui permet de garder la chaleur, mais laisse échapper un peu la vapeur, ce qui fait que ça ne ramollit pas à l'intérieur.
Voilà.
Surtout quand il y a des frites.
C'est bien le problème. Et par contre, aujourd'hui, c'est assez remis en question parce que c'est très peu écologique, étant donné qu'il y a des microbilles en plastique qui se dispersent un peu partout dans l'environnement. Donc la France est en train d'envisager d'interdire les boîtes jaunes et de les remplacer par des boîtes en carton.
Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais pour la santé aussi, ces boîtes jaunes, ou c'est uniquement pour l'écologie ?
Uniquement pour l'écologie. La santé, rien n'a été prouvé.
Alors vous classez les recettes de kebab en trois grandes catégories. Qu'est-ce que vous distinguez en fait comme
Alors,
famille
sûr, bah, c'est ce qu'on disait au départ, c'est que comme kebab veut dire uniquement grillé, il y a beaucoup de variantes. Et donc une des premières et la plus classique, on voyait que le kebab, quand on parle de kebab ailleurs qu'en France, la plupart du temps ça veut uniquement dire des brochettes. Donc c'est des chiches kebab comme le chiche taouk ou les souvlaki. Et dans tous les pays anglo-saxons par exemple, quand vous demandez un kebab, vous allez recevoir une brochette. Donc attention à ne pas s'y tromper. Donc ça c'est la plus première grande famille. La seconde grande famille, bon, on peut dire que c'est le donneur, étant donné que c'est ce qui a été le plus mondialisé,
popularisé
par la pop culture, la jeunesse, etc. Et ensuite, on voit également d'autres variantes, notamment le kouyou kebabi, qui est une sorte de kebab rôti entier. Donc,
Le
kouyou kebabi. Ah oui, il faut pas faire de mauvais jeu de mots.
Ouais,
et donc, en fait, c'est des sortes de... Ou le tandoor kebabi, c'est un énorme four en terre dans lequel on met un agneau entier.
Ah oui, d'accord, c'est le tandoor, oui, c'est l'équivalent du tandoor asiatique.
Exactement.
L'Inde, où on fait aussi
c'est le méchoui, quoi.
Des brochettes.
Voilà, c'est le grand méchoui. Et après il y a aussi des variantes mais qui s'appellent kebab mais qui n'en sont pas spécialement, par exemple le tas kebabi qui est concrètement un ragoût mais qui s'appelle aussi kebab. Donc pour voir que c'est difficile
est-ce
de savoir de quoi
dire,
on parle.
Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'il est fait à base de viande qu'on a grillé d'abord et qu'on a mis ensuite en sauce?
Mais non, comme kebab veut dire grillé mais aussi cuisson, ça veut à peu près tout
d'accord.
dire et n'importe quoi. Donc c'est-à-dire que le tas kebabi c'est
ouais, on ouvre encore des nouvelles portes.
Voilà,
en fait, quand on essaye de démêler la pelote du kebab,
c'est jamais fini.
C'est jamais fini, ouais, c'est ça.
Tout est un kebab, en fait.
Alors, cette fameuse sauce blanche dont parlait Karim Haïdar tout à l'heure, est-ce que c'est la même qu'on retrouve aujourd'hui, puisque le kebab, c'est sauce blanche?
Alors en fait, la sauce blanche, c'est vraiment une sauce traditionnelle méditerranéenne. Donc on voit que ça, en Hongrie, par exemple, on en trouve, jusqu'en Grèce, mais aussi dans tout ce qui est Proche-Orient, souvent avec des noms différents, mais en règle générale, donc que ça soit la sauce tzatziki, ou je crois que c'est le tarator en Hongrie. Donc en fait, ils ont...
Qu'est-ce que disait Karim tout à l'heure?
Il a pris la version hongroise, je sais pas pourquoi. Mais donc voilà, c'est souvent des noms différents, mais c'est une même réalité qui est très est de la Méditerranée.
Mais c'est pas de la mayo.
Non, c'est pas de... Alors justement, voilà. J'allais vous poser la question,
qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce? Alors la plupart du temps, on va y trouver un peu de fromage, en fromage frais, avec de l'ail, de l'huile d'olive et du concombre. Ça, c'est une recette.
Donc pas d'herbes, ça c'est une...
Les herbes, on peut les rajouter, mais selon les versions, c'est... Si
les herbes sont plutôt dans le sandwich.
Si on préfère plus de goût, moi, ou que ça soit une sauce plus neutre, on essaye de rajouter des condiments en plus ou en moins. Mais la plupart du temps, c'est fromage, concombre, ail, huile d'olive.
Le ketchup, c'est une hérésie, c'est une trahison, c'est un sacrilège.
Vous exagérez, Philippe.
Pour le kebab, oui. C'est quand on voit les... Et souvent, quand quelqu'un va prendre du ketchup au kebab, tout le reste du restaurant se retourne et le fusille du regard, littéralement. Alors, c'est vrai que c'est assez étrange par rapport à ce qu'on consomme comme sauce en France. C'est-à-dire que mayo ketchup, c'est plus ou moins banni du kebab quand on le prend seul.
Ça devrait même pas être proposé, je trouve.
C'est ça.
Parce que même les sauces samouraï algériennes.
Samouraï, ça s'impose. Hein. Moi, je suis désolé, je trouve que la sauce samouraï est en force.
La samouraï, elle est. Pour moi, oui, les deux à avoir, c'est l'algérienne et la samouraï.
Et la harissa?
Alors, la harissa, je préfère la rajouter en plus d'une autre sauce pour rajouter un peu de piment.
Alors, dans les pays levantins, dans le kebab, quand on le mange en sandwich, hein, puisque je rappelle que chez les levantins, le kebab, c'est juste le mode de cuisson, quand on fait un sandwich avec de la viande, on met des piments entiers grillés, voilà. Des piments qui sont plus ou moins doux, hein, ce qu'on appelle les piments cornes qu'on trouve beaucoup au Maroc ou autre, on les fait griller sur la braise, hein, comme la viande, et on les met dans le sandwich. Voilà. Et c'est vrai que ça a quand même un intérêt, c'est que c'est beaucoup moins gras que toutes les sauces épicées qu'on trouve, et puis c'est bien meilleur. En plus.
Et même la samouraï, en fait, est composée en partie de l'équivalent de la harissa, parce que la samouraï, c'est
une mayonnaise à la harissa, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais. En gros, ce qui est très drôle, c'est que ça s'appelle la samouraï, donc asiatique. C'est fait à base de mayonnaise, donc plutôt occidentale, de sambal welek, donc l'équivalent de la harissa indonésienne, et ça a été créé en Belgique.
On a fait le tour du monde. Worldwide,
c'est... Alors, le pain, monsieur Kadir Nourman, il le sort d'où, ce pain?
Alors, le pain traditionnel dans lequel a été réinventé le kebab dans les années 70, c'était le pain pide, qui est le pain traditionnel du Ramadan, et que, par exemple, quand on va en Turquie dans la période de Ramadan...
C'est une pita un peu levée, quoi.
Voilà, hein, c'est ça. Ouais. Et voilà. Et donc ce pain-là était le pain premier de la rénovation du kebab, mais en fait finalement n'était pas si pratique que ça pour manger. Donc on est reparti souvent sur la technique du durum, qui veut dire enroulé. Et donc là c'est toute la tradition aussi turque du
durum,
yufka,
c'est le taco kurde un peu.
C'est la tortilla, la tortilla turque. Et même d'ailleurs, ça a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le pain plat du Kazakhstan jusqu'à l'Arménie, donc avec forcément des noms différents à chaque fois, donc soit le yufka, soit le lavash, selon la taille, selon le diamètre, etc. Et finalement, c'était aussi très pratique de le manger dedans.
Alors c'est vrai que le pidé, s'il y a une chose qui est pas pratique, c'est que comme c'est une pâte avec levure, donc une pâte qui gonfle, à la cuisson en général, elle pousse dans tous les sens. Quoi.
Voilà,
c'est
exactement.
Complètement difforme après. Ouais.
C'est ça.
Donc bon, c'est pas pratique à manger.
Manu, votre recette, on l'attend, le kebab d'agneau maison.
Alors, c'est pas vraiment une recette, je vais vous donner un truc.
Allez-y.
Un truc. En fait, simplement, si vous voulez faire un bon kebab à la maison, alors, si vous avez le temps, vous achetez de la poitrine d'agneau, parce que c'est quand même un peu gras, mais quand même très savoureux. Alors, il faut le temps de la désosser, d'enlever partiellement la graisse, parce que c'est quand même très gras, la poitrine d'agneau. Et vous avez quelque chose de plat. Hein. Alors, si vous avez il y a beaucoup de fours hein, qui ont une broche à l'intérieur.
Ouais.
Voilà. Donc là, vous allez le cuire horizontalement. Donc là, on revient un petit peu à la genèse du kebab rotatif, voilà. C'est ça. Et donc, vous allez d'abord couper, une fois que vous avez désossé, dégraissé, vous allez faire mariner tout ça. Alors, franchement, moi, je dis que la marinade, plus on met de bonnes choses dedans, et puis pas n'importe quoi, meilleur c'est. Donc, vous mettez du leben, du lait fermenté, des choses comme ça, du lait ribot, si vous avez ça chez vous. Vous mettez du cumin, vous mettez un peu de curcuma, vous mettez de la coriandre hachée, du persil plat, tout ça. Tant que ce sont des bonnes choses, ce sera...
Allez-y,
bon, voilà.
Ouais.
Hein. Si vous faites ça avec de l'épaule d'agneau, mettez un petit peu d'huile d'olive parce que ça va apporter un petit peu de gras à l'épaule ou au gigot qui est plus maigre. Si vous faites ça avec de la poitrine, ne rajoutez pas de matière grasse. Et puis vous allez le monter comme une brochette de kebab sur la rôtissoire de votre four, sur la tournebroche, on appelle ça. Voilà, je cherche le terme. Et vous allez le faire cuire comme ça. Tout simplement. Et une chose, c'est à mi-cuisson, une fois que ça a commencé à croûter un petit peu, que ça a commencé à saisir, vous prenez une demi-tomate et vous allez frotter ça dessus et vous allez voir que ça va apporter et du goût et du croustillant et du doré et surtout du moelleux à l'intérieur. à votre broche. Ça, c'est magique. Le coup de la tomate ouverte en deux, c'est un truc qui est vraiment magique. Vous pouvez le faire avec un gigot d'agneau ou une épaule d'agneau que vous faites au four, d'ailleurs. Vous frottez une tomate dessus. Si vous frottez un peu d'ail aussi, d'ailleurs, c'est pas mal. Hein, comme je vous dis, les ingrédients, c'est vraiment open bar. C'est en fonction de vos goûts. Vous faites tourner tout ça. Et puis, ensuite, vous le découpez en fines lamelles. Vous mettez un peu d'oignon rouge. Alors, le petit truc que j'ai donné tout à l'heure, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que c'est très bon. Donc, vous prenez du blé concassé ou du boulgour que vous faites torréfier à la poêle pour le rendre très croustillant, très cassant. Et vous l'écrasez avec le cul d'une bouteille ou avec un rouleau à pâtisserie. Vous mettez ça dans des oignons rouges émincés, un petit peu de salade, un petit peu de tomate. La tomate est même presque superflue. Et puis, beaucoup d'herbes, de la coriandre, du persil plat. Vous mettez tout ça dans votre pain et c'est magnifique. Il n'y a même pas besoin de sauce avec.
Alors, peut-être un peu de tahiné dans ça.
Un peu de tahiné,
ça
ouais.
Ça peut toujours
ouais,
faire
ouais.
du bien.
Avec du houmous, j'aime bien aussi. C'est parfait. Il y a plein de versions. Hein.
Alors, Manu, s'il vous plaît, des bonnes adresses. On donnait l'adresse là, du meilleur kebab de Paris, là, qui est dans le deuxième. C'est rue du Faubourg. Bon, on va le retrouver.
On va le retrouver. Manu. Alors, voilà. Le meilleur kebab de Paris, Philippe, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec vous parce que moi, j'aime bien parler de la Voie Lactée, hein, qui est rue des Écoles. Pour le kebab, et puis il y a le restaurant aussi, qui est rue du Cardinal Lemoine. Mais là, on parle de kebab aujourd'hui, donc c'est 3 rue des Écoles à Paris 5e, c'est fermé le dimanche, et c'est ouvert de 11h à 23h30, minuit, sachant que si vous vous pointez à minuit, souvent, il n'y a plus rien à manger, parce que les broches, elles sont faites maison, elles sont faites à base de 60% de veau et 40% de dinde, donc elles sont vraiment très bonnes. C'est pas beaucoup plus cher que les kebabs qu'on trouve dans Paris. Je crois que c'est 6,50€ avec frites, donc ça reste très raisonnable. Et ils font 2 broches par jour. Hein. Donc il y a une broche qui est faite l'après-midi qui sert pour le lendemain matin, le temps de mariner, et une broche qui est faite le matin qui sert le soir. Donc quand il y en a plus, il y en a plus. Ils ont pas de broche dans le congélateur. D'ailleurs, il y a même pas de congélateur là-bas. Et leurs kebabs sont absolument délicieux. Donc ça, c'est la Voie Lactée, 3 rue des Écoles. Alors, il y en a un qui est très à la mode aussi chez les bobos, mais qui est quand même assez authentique. Hein, c'est le Urfa Durum, que vous connaissez sans doute. Non, oui. Il est assez connu. Hein, qui est 58 rue du Faubourg Saint-Denis, dans le 10e. Et qui là, fait une version kurde avec le durum, comme vous disiez tout à l'heure, en guise de pain. Et puis, pour le Bara Kebab, là, on part en Inde, c'est un jarret d'agneau qui est cuit justement dans le tandoor.
D'accord.
C'est chez nos amis du Jaipur Café, 15 rue des Messageries, à Paris 10e, donc un très bon restaurant indien. Voilà pour les adresses, Philippe.
Voilà, le Mesturet, c'est 2 rue Saint-Augustin, dans voilà. Le 2e.
Et puis on vous mettra toutes les adresses sur beurrefm.net, sur le podcast de l'émission.
Benjamin Baudis, votre livre s'appelle Kebab, question d'honneur. Pour tout savoir sur l'histoire du kebab et tout son voyage pour arriver jusque nous. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Avec beaucoup de plaisir. Bon appétit à tous si vous êtes à table. Et on se retrouve demain matin, Manu.
Eh oui, demain matin pour avis de sortie.
Bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.